Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre étude. C'est l'étude numéro 3 de cette série. Et le titre sera « La lutte fait partie du mode de vie chrétien ». La lutte fait partie du mode de vie chrétien. Tout d'abord, il me vient une pensée. Vous savez, vous qui écoutez, il y en a qui écoutent, parfois qui sont même dans des pays lointains. Alors, je voudrais juste vous dire que je veux offenser personne, mais ce sont des réalités. Vous pensez bien qu'à mon très grand âge, je sais un peu près ce que sont certaines réalités. Donc, les chrétiens véritables, je dis bien, sont de moins en moins visibles dans les pays, entre guillemets, soi-disant évolués. Mais je veux encore une fois critiquer personne. Vous savez certainement, vous êtes au courant que certains pays comme notre France voisine a donc décidé d'être plus que laïque, un mélange russe ou salade russe où toutes les religions vont bientôt en faire qu'une. Et donc, c'est assez triste. La parole de Dieu telle qu'elle est vraiment et telle que je voulais enseigner pendant quelques années, eh bien, tout cela disparaît tranquillement, mais sûrement. Oui, c'est pas drôle. Et encore une fois, les vrais chrétiens, ou le nombre de vrais chrétiens, se trouve souvent là où autrefois on disait que c'était des païens. Or, les païens ne sont plus là-bas. Les païens sont dans les pays comme le mien, la Suisse. Prenons la France voisine, et je pense encore certains pays qu'on ne veut pas citer parce qu'on veut rester poli. Donc, voyez-vous, ça disparaît. Et donc, il y aurait plus à faire pour distribuer la sainte parole du Seigneur dans ces pays-là que dans des pays très éloignés. Enfin, encore une fois, il en faut aussi qui aillent dans des pays très éloignés, bien sûr. Mais on serait étonné, il y a des millions de gens dans cette Europe soi-disant évolués, qui n'ont même jamais entendu parler de Jésus-Christ dans le sens de ce qui est écrit dans l'Évangile. Bref, voyez-vous, ce n'est pas à près de 90 ans que je vais essayer de vous leurrer Et je n'ai pas honte de vous avouer que je faisais partie pendant de très nombreuses années des chrétiens d'estrade, des chrétiens, comment est-ce qu'il faut dire cela, de parade, oui, chrétiens de nom, on appelle ça aussi ainsi, chrétiens de nom, mais pas des enfants du Seigneur, selon sa sainte parole, dans le cœur, l'âme et l'esprit. Et un beau jour, le Seigneur m'a montré que même en étant reconnu comme chrétien véritable, soi-disant, il m'a montré par l'Esprit Saint, mon fils, même avec ce pédigré-là, tu vas droit en enfer. Il me l'a montré. Oh, je ne veux pas dire maintenant que vous devez vous trouver dans cet état-là, surtout pas, car je présume que vous êtes de véritables enfants du Seigneur. Mais je ne l'étais pas. Et ça, c'est très grave. Vous pouvez être, faire partie même d'une église, d'une assemblée, d'une communauté chrétienne, et ça se peut que, comme je l'étais moi-même, que vous soyez malgré tout perdu. Ça existe. Étant donné que mon père s'est marié 5 fois et que mes marâtres étaient aussi païennes que lui, vous savez, il n'y a qu'à lire le livre de Deutéronome et d'autres, ou écouter les séries de CD que j'ai fait au sujet de la démonologie, pour comprendre que un enfant peut recevoir comme héritage, et j'en dirai pas beaucoup plus, pas le bon héritage, mais le mauvais. J'en dirai pas plus. Certains d'entre vous auront compris. Et il a fallu chasser certains esprits mauvais. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile et ce n'était pas une possibilité de simplement claquer des doigts et souffler sur quelqu'un et vous êtes maintenant clean, vous êtes maintenant délivré. C'était une lutte qui a duré, et là aussi, un certain temps. Mais venons donc à notre dernière série numéro 3 de cette très petite série que le Seigneur m'a mis dans le cœur de faire. La lutte fait partie du mode de vie chrétien. Nous commencerons par l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Là il est dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez bien entendu. Chers amis, la vie chrétienne est un combat. Alors que vous acquérez, que vous obtenez, la connaissance de la plénitude de la parole de Dieu, Satan engage contre vous une guerre totale. Tous les coups y sont permis. il fera absolument tout pour triompher de vous si vous le laissez faire. Il se servira de votre corps, de la maladie, de la souffrance ou du sexe. Il essayera de faire obstacle à votre cheminement chrétien et vous rendra inopérant. Il tentera de vous réduire en esclavage ou de vous culpabiliser. Tout ce qui pourrait tempérer votre désir de partager la sainte parole de Dieu, il l'utilisera. Si vous saisissez sa tactique, son modus operandi, si vous comprenez cela, alors vous serez mieux armé pour mener cette guerre. Bien souvent, des chrétiens se fourvoient, se trompent et commettent une erreur, ce qui n'est pas dramatique. Nous avons tous commis des erreurs, moi le premier. Nous avons tous connu l'égarement un jour ou l'autre. Mais Satan veut que vous demeuriez dans l'erreur et par conséquent, il vous la rappelle constamment. Comment allez-vous pouvoir parler à quelqu'un de Jésus alors que vous êtes prisonnier d'un sentiment de culpabilité? Si Satan parvient à vous maintenir dans un état de culpabilité, il réduira alors au silence votre témoignage pour le Christ. Là est son but ultime. Là se trouve son but ultime. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous serez saints. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 16. Satan œuvre nuit et jour pour vous maintenir dans l'impiété. Chers amis, vous êtes engagés dans un combat contre lui. Il s'agit d'une bataille capitale. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus vous a donné la victoire. On peut dire tous ensemble, Alléluia. Merci Seigneur. Vous avez déjà gagné, car Jésus a terrassé Satan il y a maintenant plus de 2000 ans. Cependant, en étant que corps du Christ, vous avez ou nous avons besoin de savoir pourquoi et comment opérer et comment opère l'ennemi dans ce monde. Et si nous connaissons son plan d'action, alors nous saurons comment riposter. Il est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Pour abattre les forteresses. Ce n'est donc pas une bataille physique avec armes et munitions, des kalachnikovs. C'est une guerre spirituelle et nos armes sont puissantes par la vertu de Dieu. La Sainte Parole est notre arme et nous devons l'utiliser. L'Écriture sainte ne peut demeurer posée sur une table ou sur une étagère dans un certain coin de l'appartement. Il y a même une chrétienne qui m'a avoué qu'elle avait une très belle Bible, mais qui se trouvait à la cave. Oh là là, oh là là. Elle doit donc se trouver dans nos cœurs, si possible, et dans notre bouche. Jésus a terrassé Satan et nous a offert la victoire. Mais nous devons la prendre avec force. Nous sommes donc engagés dans une bataille, mes chers amis. Vous pouvez le constater en regardant simplement autour de vous. Ce monde est plongé dans le chaos et malheureusement les gens blâment Dieu. Je suis sûr que vous avez entendu certains dire « Oh, c'est Dieu qui mène le monde. C'est Dieu qui dirige le monde. » En fait, dans le sens global de contrôle de l'univers, c'est bien entendu Dieu qui est le capitaine suprême et qui dirige. Cependant, il a conçu le système ici sur Terre de façon à ce qu'il soit soumis à des lois. Dans l'ordre global des choses, c'est-à-dire dans l'ensemble de l'univers, Dieu Tout-Puissant a la maîtrise suprême. Je veux que cela soit bien clair. Nul n'a plus de pouvoir et d'autorité que le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Cependant, Dieu a conçu ce monde terrestre, la vie humaine, de façon à ce qu'il fonctionne d'une certaine manière. Il y a des lois naturelles qui régissent le monde. Dieu a mis tout cela en marche et il nous appartient maintenant de vivre dans le cadre de ces lois naturelles et spirituelles. Il y a des conséquences à supporter lorsque vous enfreignez les lois de la nature. Si par exemple une personne se rendait sur l'un des plus hauts immeubles construits dans ce monde et sautait de là-haut, elle violerait les lois de la pesanteur. Cette personne heurterait très rapidement le sol et ferait une arrivée fracassante. Que serait-il advenu? Elle aurait simplement violé les lois de la nature. Ce ne serait donc pas Dieu qui aurait tué cette personne. Ce serait son propre geste. Il y a une loi relative à l'usage de l'électricité et elle est valable pour nous. Presque tout en Suisse et dans nos pays voisins est électrique. Le chauffage, la cuisinière et la porte du garage fonctionnent à l'électricité. L'électricité chauffe l'appartement, la cuisine, les repas, illumine la maison et déclenche l'ouverture automatique de la porte du garage. Bon, moi je n'ai plus de voiture à mon très grand âge. Mais cette même électricité, elle peut me faire très mal si je viole la loi. Eh bien, j'ai fait en son temps une bêtise et j'ai touché le mauvais fil. Ça aurait pu être ma fin. Le courant électrique me rejeta dans le petit coin où je travaillais. Voilà quelque chose qui secoue et cela peut même vous tuer. Qu'est-il arrivé? Eh bien, j'avais violé une loi. J'avais fermé le circuit et le courant était passé à travers le fil et moi, exactement comme si j'avais été moi-même le fil. J'avais touché deux choses qu'il ne fallait pas toucher et en avait subi les conséquences. L'électricité n'avait pas fait de différence entre le fil et moi. Pas du tout. Elle avait parcouru le fil, ainsi que ma personne, avant de retourner au fil. Si j'avais continué à tenir celui-ci, le courant m'aurait fait frire comme du jambon. Je relâchai le fil aussitôt que j'ai pu le faire. Il faut encore pouvoir le lâcher. Vous le voyez, cette même électricité qui éclaire une maison, un appartement, aurait pu me tuer. Certains pourraient dire maintenant, « Oh, le Seigneur a eu ce vieux Henri. Il l'a protégé. Le Seigneur a voulu peut-être la rappeler à lui, puisque j'aurais été mort. » Mais il ne s'agissait pas de ça. C'était pas une question de Seigneur là-dedans. C'était ma faute à moi, car j'avais violé une certaine loi. J'ai dit tout cela pour en venir à ceci. Voyez-vous, Dieu a établi des lois qui gouvernent le royaume terrestre et il dépend de l'humanité d'agir dans le cadre de ces lois. Si nous ne le faisons pas, nous en subissons les conséquences et Dieu n'y peut absolument rien. Satan aussi est à l'œuvre. Et comment? Dieu le lui permet. Il le laisse faire, bien qu'il ne lui ait pas ordonné tout cela, qu'il ne l'a pas chargé de le faire. Le démon est un agent libre et même doué d'une certaine morale, mais pas la bonne. Il a choisi de se rebeller, de se révolter contre Dieu, mais Dieu l'a laissé faire. Cependant, Dieu a une stratégie qui l'emporte sur tout ce que fait le démon, et si nous nous mettons en phase avec cette stratégie, elle fonctionnera en notre faveur. Ce monde est plongé dans le désordre parce que Satan y règne. Certains, dans leur ignorance de la Sainte Bible, contesteront cette affirmation, mais elle est exacte. Ce n'est pas de l'hérésie. Je n'enseigne pas une fausse doctrine lorsque je dis que Satan est le maître de ce monde. J'enseigne simplement ce que dit la Sainte Bible. Bien sûr, aujourd'hui, dans mes pays soi-disant super éclairés, il prouve de plus en plus que tous les livres de la Bible sont une pure invention à mettre au même titre que la mythologie grecque. Voyez-vous, durant des années, j'ai entendu des gens dire « Oh, c'est le Seigneur qui domine la situation ». Eh bien, si c'est Dieu qui vraiment mène ce monde, personnellement, je ne tiens pas à aller au paradis. Car si ce monde est un exemple de la façon dont Dieu conduit les choses, de grâce, ne m'envoyez pas au paradis, mais dans un bled africain. Je plaisante. Jésus, lorsqu'il a appris aux apôtres à prier, leur a dit clairement, « Notre Père qui est aux cieux, n'est-ce pas, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Or, si ce monde de désordre, de chaos, de préjugés, de haine. Oh là là, vous devez quand même savoir que des nombreux peuples, voire même des ethnies dans certaines régions, se haïssent tellement qu'ils se tuent les uns les autres. Il y a donc des guerres, de la famine. Tout cela résulte de, soi-disant, de la volonté de Dieu, soi-disant. Alors, il peut garder son paradis, si c'est vraiment lui qui permet cela. Je ne veux pas y aller. Mais Dieu soit loué, ce n'est pas ainsi qu'il dirige le monde, mais plutôt en permettant à Satan d'agir. C'est pas Dieu qui le fait, c'est Satan qui mène le bal. Voyons l'épître aux 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Notez cela soigneusement, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le dernier verset fait clairement référence à un Dieu de ce monde. La sainte parole de Dieu nous dit que celui-ci aveugle les esprits des incrédules de telle sorte qu'ils ne seront jamais en mesure de croire ou de voir la lumière. Il ne peut s'agir là du Tout-Puissant. La Sainte Bible dit que la volonté de Dieu n'est pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Si la volonté est que tous se repentent, il ne va certainement pas aller de ci, de là, aveugler les gens et les empêcher de le voir. Ce serait totalement idiot. Dieu ne va pas nous dispenser de sa sainte parole, nous enjoindre de la lire, nous proposer de la lire, puis mettre sa main devant nos yeux de façon à nous empêcher de la lire. Mais ce serait... Non, on n'a pas le droit de dire ça. Ce serait stupide. Et Dieu, croyez-moi, n'est évidemment surtout pas... Vous avez compris. Nous savons qui est le Dieu de ce monde. C'est Satan, le démon, le serpent. C'est lui, le prince de ce monde. Il est dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 14, verset 27, notez bien cela, Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Remarquez bien où se trouve la responsabilité en ce qui concerne la paix. Elle se trouve en nous, en moi. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Ce verset dit implicitement, absolument, que nous pouvons être troublés si nous le voulons bien. Et avant cela, Jésus nous a dit, je vous laisse la paix. Si nous sommes troublés, ce n'est donc pas la faute de Dieu. Des chrétiens que leur cher cœur, rempli d'ignorance, soit béni. Ils vont charriant les frustrations. Ils multiplient les frustrations, les contrariétés, les tensions que le cours de la vie fait naître en eux. Ils ne connaissent ni la joie, ni la paix, et ignorent que c'est de leur propre faute. Nombreux d'entre eux ne sont jamais entrés dans une église, dans une chapelle, dans une communauté chrétienne, où ils pourraient pourtant entendre la vérité. Écoutez Saint Jean chapitre 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi. Dans le texte original, en grec, prince, prince, se dit archon, ce qui signifie souverain. Ce verset est clair, très clair, très clair. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Nous savons avec certitude qui est le Dieu de ce monde. Jésus a dit que le prince ou souverain de ce monde arrivait. Il n'a pas du tout dit que son Père, Yahvé l'Éternel, arrivait. Il a dit le prince de ce monde. C'est-à-dire, vous l'avez compris, Satan, l'ennemi. Saint Jean, chapitre 14, verset 30. Ce verset est très révélateur. Savez-vous ce que signifie « il n'a rien en moi » ?« Il n'a rien en moi » Eh bien, la réponse se trouve dans l'Épître aux Éphésiens. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Et là, il est dit « et ne donne pas accès au diable ». Et ne donne pas accès au diable. Jésus n'a pas donné accès au diable. Donc, l'ennemi n'avait rien en lui. Jésus a dit dans Saint Jean, chapitre 14, verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27, que j'ai déjà cité, il est dit « Et ne donnez pas accès au diable. Si vous ne lui faites aucune place, il n'en aura aucune. » Et ce, assez clair. C'est de vous, de moi, que cela dépend. Si vous faites une place au démon, c'est vous qui en êtes responsable et non pas Dieu. Mais place, le mot place est un mot intéressant et qui stimule la réflexion. Car en grec, il se dit topos, racine du mot anglais topographie. Il renvoie à tout ce qui est une configuration du terrain, telles que les collines, les montagnes, les vallées, les rivières, les criques, les îles, etc. Ce que dit Jésus par la voix du Saint-Esprit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27, déjà cité deux fois, c'est « n'offrez pas aux démons un support sur lequel ils puissent prendre pied dans votre et dans ma vie. Ne lui donnez pas une crique, pas une île, pas une colline, pas une rivière, ni quoi que ce soit d'autre. et si ce n'est pas vous qui le lui donnez, il ne l'aura pas. Dieu soit donc loué. Amen. Chers amis, merci Seigneur de m'aider pour la voix. À 90 ans, ce n'est pas évident. Merci de m'aider jusqu'au bout. Alléluia, merci. Donc, ce que dit Jésus par la voix du Saint-Esprit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 27, c'est n'offrez pas aux démons un support pour lequel ils puissent prendre pied dans votre vie ou dans ma vie. Ne lui donnez pas quoi que ce soit, rien, absolument rien. Satan, c'est lui le Dieu de ce monde, on l'a maintenant compris. Mais Jésus nous a donné un empire sur lui, un pouvoir sur lui. Oh, pas par nous, vous l'avez compris. Oh non, pas par nous. Si nous n'intervenons pas contre lui avec l'aide de l'Esprit Saint, nous devrons alors vivre avec les conséquences. Nous avons commencé en parlant du, je crois, Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, si je ne me trompe pas, qui traite des divers esprits malins. Je voudrais poursuivre plus avant l'étude de ces esprits maléfiques des sphères célestes. Bien souvent, les gens ne comprennent pas que dans les coulisses de chaque événement concret qui se produise dans le monde, il y a vraiment des esprits malins. Il y a des esprits bénéfiques et il y a des esprits maléfiques qui sont engagés dans un combat titanesque pour faire obstacle à la parfaite volonté divine dans notre royaume terrestre. Lorsque les gens concernés ne sont pas des chrétiens, ils renvoient la balle dans le camp des esprits maléfiques, leur donnant ainsi l'avantage. Lorsqu'il s'agit de chrétiens agissant conformément à la sainte parole de Dieu, ils envoient la balle dans le camp des anges de Dieu. Ah, ça change tout. Qui, eux, triomphent des esprits malins. Alléluia. Beaucoup de choses qui se produisent dans la société ne sont pas du tout le fait de Dieu. Des esprits malfaisants sont souvent responsables des conditions qui font que des gens dans le monde vivent en esclavage ou dans la pauvreté ou souffrent de maladies. C'est bien triste, très triste en vérité. Vous savez, j'ai pu faire que 4 ans d'école primaire. Une trop longue histoire à vous raconter. Évidemment, vous avez le droit de vous poser les questions ou la question, comment se fait-il qu'on peut faire confiance en cet individu qui a fait que 4 ans d'école primaire? Eh bien, je ne veux pas chicaner qui que ce soit là-dessus. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais il est possible que vous puissiez comprendre que Yahvé l'Éternel, le Dieu qui avait un ami, et il en avait plusieurs, le premier c'était Enoch, ensuite son ami Abraham, et puis beaucoup d'autres. Eh bien, Dieu, par l'Esprit Saint, peut faire des miracles à quelqu'un d'entre vous qui, comme moi, a peut-être juste pu faire 4 ans d'école primaire. Croyez-moi, c'est vrai. Oh, souvent j'ai pensé, si j'avais pu faire l'université, je serais devenu un docteur en théologie. Mais je serais devenu quelqu'un, soi-disant. Mais va savoir. Mais va savoir, ça veut dire peut-être, peut-être, avec même tout le pédigré voulu, j'aurais pu être perdu. Va savoir. Mais revenons à notre étude. Chers amis, la majorité de la population mondiale a très faim. On peut penser qu'il y aurait de quoi nourrir cette majorité rien qu'avec la nourriture que jettent certains pays. Et là, j'ai peur de vous dire quels sont ces pays, mais certains d'entre vous le savent. C'est une triste réalité, mais c'est ainsi que fonctionne le système. Et vous avez compris que c'est Satan qui le dirige. Considérons le regard que porte la Sainte Bible sur l'activité de ces démons. Dans le fameux livre de Daniel, au chapitre 10, on raconte comment Daniel a prié Dieu, a prié son papa, Yahvé l'Éternel, car il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Il a fait pénitence en jeûnant, c'est-à-dire il s'est humilié de façon à pouvoir entendre Dieu. Tandis qu'il priait, quelque chose survenait dans le monde des esprits. Mais Daniel n'en savait rien jusqu'à ce qu'un ange lui apporta tout cela et lui dit, Daniel chapitre 10, verset 12, l'ange lui dit, Daniel, Daniel, ne crains rien, ne crains pas, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. L'ange dit que depuis le premier jour, Dieu avait entendu les paroles de Daniel. Nous savons d'après l'Écriture sainte qu'entendre pour Dieu signifie que la prière a été exaucée. Mais l'ange ne lui a paru que 21 jours plus tard. Pourquoi? Notez Daniel chapitre 10, versets 13 et 14. Là il est dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Le chef du royaume de Perse, c'était pas n'importe qui, c'était un prince des démons. Mais voici Michel, l'archange, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, mes chers amis, l'ange dit, le chef du royaume de Perse lui résista, et selon mes versions allemandes, puisque je suis d'origine de langue allemande, un super démon, prince des démons, et là, l'archange Michel, il ne parle pas de Cyrus. Cyrus, le roi qui siégeait sur le trône, il ne parle pas de lui. Il parle de l'esprit malin qui opérait à travers la personne de Cyrus, c'est-à-dire l'un de ces esprits malins des sphères célestes qui influençaient le roi Cyrus. Il y en a aujourd'hui qui influencent un certain Vladimir Poutine, un certain phénomène qui veut tout faire sauter dans la Corée du Nord, un autre qui voudrait être président, et je ne veux pas citer son nom, espérons que ça passe pas, car gare à nous. Donc, l'ange faisait bel et bien référence à la lutte qui se déroule dans le monde des esprits. L'archange Michel est arrivé, c'était pas Zorro, mais l'archange Michel arriva et engagea le combat avec cet esprit malin. Mais Daniel ignorait tout, absolument tout, de la lutte qui faisait rage dans le monde des esprits. Et il en va de même pour nous, pour vous et moi, lorsque nous faisons une profession de foi qui est basée sur Saint Marc, chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant est-il dit, même dans ma version allemande, croyez, ou pour les Anglais, believe, believe, que vous l'avez reçu. Believe, you did receive it, you did get it, et vous le verrez s'accomplir, et vous le verrez s'accomplir, se réaliser. Parfois la réponse ne vient pas en claquant des doigts immédiatement. Pour moi, j'ai été miraculé plusieurs fois. Je ne serais pas venu à cet âge quand j'étais plusieurs fois entre la vie et la mort. Mais voilà, il s'est déroulé une lutte titanesque dans le monde des esprits. La seule chose qui permette aux anges de Dieu de réussir à apporter la réponse, c'est notre, votre résolution et notre confession de foi. Nous devons faire cette confession quotidiennement. Pourquoi pas? À cause de la guerre qui fait rage dans notre âme, et j'ajoute notre esprit. C'est pourquoi il y a ici une dimension temporelle. J'ai entendu des chrétiens qui ont dit, à propos de la guérison, « Oh, ça, ce n'est pas le bon moment pour Dieu dans mon cas. » Comme s'il y avait un bon moment. Non, voyez-vous, la manifestation n'est absolument, elle n'a absolument rien à voir avec le choix d'un moment par Dieu. C'est une question de foi et de combat. J'ai dit que ça ne va pas automatiquement en claquant des doigts. C'est une lutte épouvantable. J'ai connu cela pendant des années. Horrible. Je le souhaite à personne. Dieu n'a pas de moment privilégié pour guérir, pour délivrer, pour aider quelqu'un. Vous pouvez être exaucé tout de suite si vous osez avoir la foi. Il vous suffit de vous battre pour cela, car vous avez un ennemi, Satan, qui ne veut pas que vous obteniez ce que vous avez demandé. » Notez Apocalypse, chapitre 12, verset 1, qui nous dit « Et ils triomphèrent de lui par le sang de l'agneau et par les mots de leur témoignage. Et ils n'aimèrent point, ils n'ont pas aimé leur existence propre qu'ils menaient jusqu'à maintenant. Ils ne l'ont pas aimé jusqu'à la mort. C'est mon cas. » Et il est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent. Mais encore une fois, ce n'est pas la faute de Dieu. Qu'il y a dans ces guerres des enfants qui sont assassinés, rendus invalides jusqu'à leur mort. Ce n'est pas la faute de Dieu. S'il vous plaît, je vous en supplie. Mais c'est le résultat de ce que ce monde s'est écarté de Dieu. C'est ça. Alors, l'ennemi a eu le temps de prendre le dessus. Satan combattra votre confession, mais vous pouvez le vaincre par le verbe « Alléluia ». Que doit-on entendre dans votre confession ? Je crois que j'ai reçu. Seigneur, je crois, j'ai prié, je n'écouterai pas la voix de l'ennemi, je crois que j'ai reçu ce que j'ai demandé. Il est vrai, je reconnais que parfois il y a des mystères et c'est dans l'au-delà que cela nous sera révélé. Oh, vous avez beau de dire maintenant, il s'en tire pas mal, ce vieux bonhomme. Non. Je prends tout au sérieux, très au sérieux. C'est votre foi, ma foi, qui s'imprime ainsi et elle donne aux anges de Dieu de quoi combattre les esprits malins. Elle donne aux anges de Dieu. À ce sujet, j'ai... Si vous possédez Internet, moi je ne possède pas, mais je travaille pour Internet, bénévolement, ça va de soi. Vous trouverez des études sur les anges, le ciel, l'enfer, la démonologie, les prophéties, et j'en passe. Bible explique en un seul mot, .ch. Et je vous supplie d'essayer d'écouter le témoignage authentique, approuvé, voire plus que cela, de Marietta, le témoignage de Marietta, s'il vous plaît. Il y en a qui diront, c'est des fables. Oui, à vous de juger, mais je vous prie avant de prier pour que le Seigneur vous montre si vraiment c'est des palivernes, c'est des histoires racontées sans aucun fondement. Je vous laisse donc de prier pour cela. Mais écoutez d'abord avant de juger. C'est votre foi qui s'exprime donc, et elle donne aux anges de Dieu de quoi combattre les esprits malins. La puissance de Dieu est libérée, oui, libérée, par la foi que nous manifestons dans notre vie et à travers la confession. Et c'est pourquoi Jésus a dit et répété aux gens qui venaient à lui et qui ont cherché la guérison, la délivrance, c'est ta foi qui t'a guéri. Bien sûr, parfois même, et je l'ai constaté dans ma vie, j'avais même pas la force d'avoir la foi. Et le Seigneur a calmé ma vie. Quel amour, quelle miséricorde, c'est inouï, magnifique. Le Seigneur n'a pas dit que Dieu ou son pouvoir l'avait fait. Et cependant, nous savons que c'est le pouvoir de Dieu qui les a guéris. Qu'est-ce donc qui a libéré ce pouvoir? C'est certainement votre foi. Avant de prier ensemble, rappelez-vous de ceci. Ésaïe 54, verset 13, terminera notre étude. Ésaïe 54, verset 13, parfois j'ajoute un mot, mais ne soyez pas offusqués, ça n'a rien à faire avec m'envoyer en enfer pour cela, parce que je prends parfois les versions allemandes. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Vous l'avez compris, la Bible, quand elle parle de l'homme, malgré qu'elle ne parle pas ou qu'elle cite pas la femme est comprise là-dedans. C'est pour éviter que certains d'entre vous soient offusqués. Alors je dis le verset ainsi, « Tous tes fils et filles seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils, et j'ajoute de tes filles. » Pourquoi j'ajoute « et de tes filles » Parce que j'ai constaté que les hommes sont souvent, en tout cas dans mes contrées où je vis, beaucoup plus orgueilleux que les femmes. Oh oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de femmes qui se convertissent, qui prennent des décisions pour Jésus-Christ que d'hommes. C'est vrai. Alors encore une fois, Ésaïe 54, verset 13, « Tous tes fils et filles seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils, de tes filles. » Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Père, au Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Nous allons prier ensemble et je voudrais vous dire une strophe d'un très ancien cantique. Ensuite, nous prierons et je vous mettrai un ou deux chants d'un assez lointain passé. Je vérifie pour pas vous dire n'importe quoi. C'est 1965. En ce temps-là, il n'y avait pas de CD. Enseigne-moi par ton esprit à t'invoquer en assurance et donne-moi la confiance d'un simple enfant, ô Jésus-Christ. Prions. Oui, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier comme le péager, que nous sachions te confesser nos péchés et t'en demander le pardon au nom de celui dont le sang nous purifie de tout péché. Enseigne-nous à prier avec une sainte hardiesse, appuyée sur tes promesses qui sont oui et amen en notre Sauveur, et comme ayant le droit, si nous te prions en son saint nom et selon sa volonté, d'être exaucés de toi. Enseigne-nous à prier comme n'ayant rien et ne pouvant rien par nous-mêmes, mais comme ayant toutes choses en toi et pouvant toutes choses par toi. Enseigne-nous à prier sans cesse et à pas nous relâcher. Tu n'es pas un juge inique, Seigneur, pour être importuné par nos prières, mais tu es un Père miséricordieux qui exerce la persévérance et la foi de tes enfants et qui les exauce merveilleusement. Pardonne-nous la longueur, la mollesse, le découragement de nos prières et donne-nous de prier avec assez de foi pour n'être point étonné quand tu nous exauces. Enfin, Seigneur, enseigne-nous à te prier avec un cœur pénétré de reconnaissance pour tous tes bienfaits et à te glorifier par nos louanges. Fais-nous cette grâce pendant cette journée et que nous la passions en ta présence et dans la communion de notre Sauveur et Seigneur par le Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, essayons de vous mettre ce que je vous ai promis en haut de chant de ce lointain passé.
Le grand amour. Sans éclat ni beauté, il n'avait rien pour plaire, rien de très attirant. Il était un simple, pas reconnu des grands.
Il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui brûle encore.
Il est mort en silence pour nous donner la vie.
Il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Il panse les plaies de l'oiseau blessé, il ramène le bateau jusqu'au port. Thank you.